Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. On savait que les relations étaient parfois difficiles entre le premier ministre de transition libyen, Dbeiba, et les syndicats de médecins, les personnels soignants libyens qui ont beaucoup travaillé pendant la guerre civile, notamment les services de traumatologie, et qui ont été à nouveau sollicités durant la période du Covid-19. Une réunion a eu lieu aujourd'hui des syndicats, des médecins et paramédicaux qui ont décidé de voir ensemble où en sont les revendications qui étaient les leurs, portant notamment sur les salaires, c'est une chose, mais également les conditions de travail, ce qui impacte directement les conditions dans lesquelles les soins de santé sont prodigués, quelles sont les conditions d'accueil, quel est aujourd'hui le visage réel de la santé en Libye. Ce sont des questions qui ont été abordées, donc il n'y a pas encore de mouvement social qui a été annoncé, mais on sait que ça a été souvent difficile dans le passé, que des promesses ont été faites par l'actuel Premier ministre. Pour l'instant, les syndicats de médecins estiment que ces promesses n'ont pas été tenues. D'autres réunions auront lieu dans les prochains jours pour décider si oui ou non il y a un mouvement de grève qui sera annoncé. Les démons de la Libye, comme au bon vieux temps, comme au mauvais temps d'autrefois, c'est ce que nous inspire ces affrontements qu'il y a eu à proximité de la raffinerie de pétrole de Al-Zawiya. Des affrontements aux armes légères à proximité d'installations. Cela s'est passé en début de semaine, la nuit, par des groupes qui n'ont pas pu être identifiés. Mais il y a toujours des dégâts. 13 réservoirs de produits pétroliers ont été endommagés, ainsi qu'un générateur d'électricité et puis également des plafonds correspondant à des lieux où il y avait des personnels de la raffinerie qui pouvaient être amenés à se déplacer. Donc voilà, des dégâts matériels tout à fait significatifs qui vont engager des frais, qui vont engager des réparations et des affrontements qui ne sont pas signés par des hommes. C'est vrai que cela nous rappelle les combats qui ont pu exister entre des factions rivales qui peuvent en venir aux armes pour des affaires d'inimitié, de rivalité entre les groupes ou pour des affaires tout simplement financières. Voilà qui rappelle que la situation en Libye s'est considérablement améliorée, mais il reste encore des abcès de fragilité. Un communiqué officiel du ministre algérien de la communication, Amar Belimer, qui accuse l'agence France Presse de diffamation et d'atteinte à la stabilité de l'Algérie, des mots bien forts pour en fait une simple dépêche qui a été diffusée en milieu de semaine et qui raconte le phénomène des haragas algériens qui fuient le pays, qui fuient le régime algérien, la pauvreté, pour essayer de trouver espoir et espérance dans l'espace européen, ce qui est bien difficile. Certains y laissent leur vie, d'autres réussissent à traverser. Et pour l'instant, ce sont les Espagnols qui ont récupéré plusieurs milliers de haragas algériens qui ont traversé la mer Méditerranée. Le ministre de la communication algérien dit que ces informations sont diffamantes. Rappelons que les Algériens eux-mêmes en parlent dans la presse qui est la leur. Donc diffamation. Après, pour ce qui est des propos concernant la stabilité de l'Algérie, l'agence France Presse atteindrait à la stabilité de l'Algérie. Ces mots sont plutôt à lire dans le cadre de cette relation très détériorée qu'il y a actuellement entre la France et le régime algérien. C'est l'une des destinations touristiques préférées des Algériens, la Tunisie. Chaque année, ils sont plus de 2 millions à franchir la frontière pour séjourner sur les plages tunisiennes ou même dans l'arrière-pays qui est absolument magnifique. Maintenant, le problème, et c'est toute l'impatience des professionnels tunisiens du tourisme, le problème, c'est la fermeture actuelle des frontières, puisqu'il y a aussi un tourisme hivernal et toute ouverture des frontières est de nature bien à faire vivre les hôtels, les restaurants, toutes les industries qui sont liées au transport et au voyage, ce dont la Tunisie a grand besoin. Alors bien évidemment, pour des raisons sanitaires, la frontière a été fermée entre la Tunisie et l'Algérie, il y aurait actuellement un projet de réouverture des frontières du fait qu'il y ait une amélioration significative de la situation sanitaire dans les deux pays, à la fois en Tunisie et à la fois en Algérie, même si la vaccination traîne et fait peser le risque sur la disponibilité de vaccins qui pourraient voir leur date de péremption atteinte. Mais pour l'instant, les professionnels du tourisme tunisien se demandent mais quand la frontière va-t-elle être réouverte ? Des discussions aurait été engagé entre les deux États afin d'accélérer l'opération de réouverture des frontières avec l'application stricte de protocoles sanitaires dans l'espoir qu'une ouverture des frontières qui d'ailleurs concernera les deux côtés, les deux pays, que cela puisse permettre de revenir à la normale dans les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Algérie. Un mot encore pour la Tunisie avec ces chiffres qui ont été diffusés par l'Instance nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Au cours de la dernière année, on a appris qu'il y a toujours des cas aujourd'hui de traite d'êtres humains, toujours des enfants qui sont enlevés, qui sont malmenés, qui sont martyrisés. Certains ont même quasiment failli mourir sous les coups de leurs agresseurs. Il peut même parfois s'agir de leurs parents, de leurs proches. C'est absolument épouvantable. Et là, c'est un phénomène qui est tout à fait mondial, qui arrive dans tous les pays du monde. Mais c'est vrai que ces chiffres tunisiens viennent nous rappeler que la maltraitance touche tout le monde, essentiellement les enfants, ainsi que l'exploitation sexuelle. Aussi des cas qui sont signalés en Tunisie et qui mobilisent et émeuvent cette instance nationale de lutte contre la traite des êtres humains qui devrait proposer dans les prochaines semaines, prochains mois, des mesures appropriées à ce phénomène hautement condamnable. Ce proche, Proche-Orient, si loin de nous. Notre destination du jour est toujours la Palestine avec ses 12 pays européens qui officiellement appellent les autorités israéliennes à renoncer à leur nouveau projet de construction de logements que nous évoquions hier. Citons ces pays, c'est important de le faire pour que l'on connaisse leurs noms. L'Allemagne, France, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Pays-Bas et Irlande. Il y a eu également ce soutien apporté par la diplomatie américaine. C'est une première de l'administration Biden qui, elle aussi, condamne ces projets de nouveaux logements construits en Cisjordanie, une Cisjordanie qui est déjà fortement émiettée, qui est déjà fortement léopardisée, ceci en référence à la peau de léopard. C'est une expression qui nous vient de Jean-Paul Chagnolot, que nos auditeurs connaissent bien sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Jean-Paul Chagnolot, spécialiste du Proche-Orient, et souvent quand il parle de la Cisjordanie, il dit que c'est une peau de léopard, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui énormément d'implantations israéliennes dans ce territoire. Alors cela s'inscrit dans un rapport de force entre la Palestine et Israël que l'on connaît bien, mais aussi un rapport de force non pas sur les fondamentaux, même s'ils existent, mais aussi au jour le jour avec ces défis sur l'approvisionnement en électricité à partir de mercredi prochain. Si l'autorité palestinienne ne paye pas un impayé de 157 millions de dollars, eh bien il y aura des coupures d'électricité. C'est là encore un dossier ancien, puisque souvent les autorités de la Cisjordanie doivent régler leurs factures d'électricité, puisque c'est Israël qui fournit l'électricité à la Cisjordanie. L'autorité palestinienne n'a pas les fonds nécessaires pour pouvoir régler la facture, ce qui fait que, en échange de quoi, eh bien, Israël menace de faire couper l'électricité ou en tout cas que celle-ci n'intervienne que par intermittence avec des coupures dans un premier temps de 4 heures par jour, ce qui est déjà très, très, très handicapant. Des hauts fonctionnaires de l'autorité palestinienne ont actuellement entrepris plusieurs voyages à l'étranger dans l'objectif de collecter des fonds. Il y a notamment le chef du renseignement, Majed Farage, était récemment dans le Golfe pour essayer de trouver de l'argent. On pense que le Premier ministre de l'autorité palestinienne devrait prochainement demander, voire même se rendre peut-être en Europe pour essayer de récupérer de l'argent de telle façon à payer cette facture d'électricité ô combien élevée, 157 millions de dollars tout de même. Mais c'est une facture qui doit être réglée, sinon Israël appliquera très vraisemblablement sa décision de coupure d'électricité. Ceci, bien évidemment, est un stress particulier à la fois pour les dirigeants palestiniens, mais aussi pour les populations qui vont rentrer dans l'hiver, un froid qui est souvent glacial, qui est souvent mordant en Palestine. Déjà, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais si en plus ils ne peuvent pas se chauffer, l'hiver risque d'être encore plus difficile à vivre. D'où l'importance de régler le plus vite possible cette question de facture d'électricité palestinienne. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.